Voilà, ben ouvrons nos Bibles à Romains 13 ce matin, et nous continuons notre étude de cette épître. Et aujourd'hui, nous arrivons au verset 8 à 14, un message que j'ai intitulé « La dette de l'amour ». La dette de l'amour. Et je vais lire Romains 13, versets 8 à 14. Donc vous pouvez suivre dans vos Bibles si vous les avez. Paul écrit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Alors, comme vous l'avez vu, le thème de notre étude ce matin, c'est l'amour. Ce texte parle de l'amour. Et on le voit au verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Vous rappelez que dans Romains 1 à 11, les chapitres 1 à 11, Paul avait décrit la justification par la foi. Et il avait décrit comment l'homme est sauvé par Jésus-Christ, comment il peut recevoir gratuitement le pardon des péchés, ce qu'on appelle la justification. Il est déclaré juste, où il est déclaré innocent malgré son péché, et cela à cause du sacrifice de Jésus-Christ à son égard. Dans les chapitres 12 à 16, Paul décrit le résultat pratique de cette justification dans la vie du chrétien. Et la dernière fois, nous avons vu à la joie générale de l'Assemblée que le chrétien justifié se soumet à l'État et paye avec joie ses impôts. Vous vous rappelez la joie que vous avez évoquée lorsque vous avez appris cette vérité il y a 2 semaines en arrière. Alors aujourd'hui, nous apprenons que le chrétien justifié apprend à aimer de manière nouvelle et je dirais de manière surprenante. Alors parlons un petit peu de l'amour. Avant d'aller dans le texte, c'est une introduction un peu longue, mais vous verrez, ça va être, je pense, utile. Parlons un petit peu de l'amour. L'amour, hein, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup. Presque tous les chants qu'on entend à la radio sont sur le thème de l'amour. Donc l'amour, c'est un thème populaire et important. Et donc, il faut en parler un petit peu. Alors, c'est vrai que la langue française, comme pour la langue anglaise, n'est pas très riche dans cette description de l'amour. Par exemple, on peut aimer son chat, une grue, le Coca-Cola ou son épouse. Tout le même mot, amour, d'accord ? Donc, ce n'est pas très riche, quelque part. La langue grecque, dans laquelle fut écrit une portion, enfin, le Nouveau Testament, en revanche, est beaucoup plus riche dans sa description de l'amour. En grec, il y a 3 mots principaux pour décrire l'amour. Je vais très vite, d'accord ? Premièrement, il y a le mot « eros ». « Eros », duquel nous dérivons le mot « érotique », c'est l'amour sexuel. C'est l'amour sexuel. La Bible nous dit que cet amour est un amour merveilleux, créé par Dieu, mais réservé pour le mariage. 1 Corinthiens 7,2 nous dit « Pour éviter la débauche sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc les relations sexuelles sont réservées uniquement pour un couple marié. Le deuxième mot grec souvent utilisé dans la Bible pour décrire l'amour, c'est le mot « philéo ». On a la ville de Philadelphie, par exemple, qui a ce mot. C'est l'amour fraternel ou l'amour de 2 frères ou 2 sœurs, d'accord ? Cet amour fraternel. une tendre affection entre deux individus qui s'aiment, l'amour de deux frères, l'amour d'amitié. C'est l'amour qu'on a quand on est ami avec quelqu'un. Proverbe 17:17 nous dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 27:9 nous dit « L'huile et le parfum réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » C'est ce genre d'amour ici qu'on est en train de décrire dans Philéo. Jésus a dit dans Jean 15:17 « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Donc c'est cet amour d'amitié réciproque. Mais il y a un troisième amour dans la Bible. C'est l'amour agapé. Agapé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour du sacrifice. Je vous définis l'amour agapé. C'est l'exercice d'un choix d'aimer en faisant du bien à quelqu'un d'une façon constante, sans cause apparente et sans attendre un retour pour l'amour démontré. Je répète. L'amour agapé, c'est l'exercice d'un choix d'aimer en faisant du bien à quelqu'un d'une façon constante, sans cause apparente et sans attendre un retour pour l'amour démontré. En fait, c'est le choix d'aimer, de faire du bien à son prochain, qu'il le mérite ou pas, même qu'il en soit digne ou pas, c'est cette décision d'aimer, point final. Regardez avec moi Jean 3,16, peut-être le verset le plus connu de toute la Bible. Simon, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de retour, s'il te plaît. Merci. Jean 3,16, un verset très connu. Écoutez. « Car ici, nous avons la description suprême de l'amour agapé. » Il est dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde, aimé le monde. » Le mot « agapé ».« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous, l'amour agapé, c'est le désir que Dieu a eu de nous aimer, nous qui étions pécheurs, nous qui n'avons rien de bon à offrir à Dieu, nous qui méritions son jugement, Dieu a eu pitié de nous, il nous a aimés quand même, à tel point qu'il a sacrifié son propre Fils unique pour nous. Mais vous dites, mais pourquoi ? Bienvenue à l'amour agapé. Il n'y a pas de cause apparente, sauf qu'il a décidé de nous aimer. Car Dieu a tant aimé le monde rebelle qu'il a offert son Fils. Romains 5,8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a aimés, il a donné son Fils qui est mort pour nous. » Ça, c'est l'amour agapé. L'homme s'est éloigné, s'est rebellé de Dieu. L'homme a dit non à Dieu. Et Dieu a dit « Ben, je t'aime quand même. » C'est incroyable. Je t'aime quand même. Alors maintenant, allez avec moi à 1 Jean 3,16. Donc 1 Jean, c'est juste avant Apocalypse. D'accord ? Il y a 1, 2, 3 Jean, Jude et Apocalypse. 1 Jean 3,16. Alors attention, ça c'est radical. Là, ça vous explique l'amour agapé et comment nous devrions l'appliquer maintenant. D'accord ? 1 Jean 3,16 dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il lui a donné sa vie pour nous. C'est ce qu'on vient de voir, Jean 3,16. Virgule. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Waouh ! Donc en fait, un chrétien qui est justifié par la foi réalise que l'amour que lui devrait démontrer envers un autre, c'est le même type d'amour que Dieu a montré envers lui. Cet amour de sacrifice pour, jusqu'à finalement, notre vie pour un frère. Alors écoutez, si vous voulez connaître ou savoir, les jeunes mariés, là, il y a plein de gens qui viennent se marier, il y en a encore qui vont s'assiner, je vous parle 2 secondes, d'accord ? Vous ! Est-ce que vous voulez un mariage révolutionnaire, radical, génial et super top ? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? amour agapé. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est la clé d'un mariage réussi. Je t'aime, virgule. Je ferai tout pour subvenir à tes besoins spirituels, virgule, émotionnels, virgule, physiques, virgule, jusqu'à que la mort nous sépare, virgule, que tu le mérites ou pas, virgule, t'es un bon jour ou un mauvais jour, virgule, je t'aime, virgule, je sacrifierai pour toi, virgule, je t'honorerai, virgule, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort, point final. Bienvenue au mariage. Et par la grâce de Dieu, c'est ce genre d'amour que mon épouse manifeste envers moi tous les jours. Heureusement, sinon ce serait catastrophique. Parce que moi, je n'arrive pas à l'aimer comme ça. Elle m'aime plus comme ça. C'est incroyable. Et en fait, un bon mariage, c'est la concurrence entre deux conjoints pour voir qui peut servir l'autre plus avec l'amour agapé que l'autre. C'est une concurrence. Je te sers. Non, c'est moi qui te sers plus. Non, c'est moi qui te sers plus. Non, je veux t'honorer plus. Non, c'est moi qui veux t'honorer plus. Alors, je rigole, mais pas vraiment, en fait. C'est ça la clé de mon mariage. Vous dites, ouais, mais John, tu rêves. Il faut venir à la réalité, là. C'est pas vraiment comme ça. Finalement, dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment chacun pour soi, n'est-ce pas? Non, je t'aime, donne-moi ce que je veux. Et quand t'arrêtes, pouf, fini. C'est ça un petit peu ce qu'on voit souvent aujourd'hui. Alors, allez avec moi avec Romains 5, 5. Et c'est là où cet amour agapé devient vraiment quelque chose de merveilleux. Romains 5, 5, et on va aborder nos textes, hein, vous en faites pas. Romains 5, 5, regardez. Vous dites, ouais, mais John, cet amour agapé, c'est impossible. Je dirais, oui, c'est vrai, humainement, c'est quasi impossible. Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez Romains 5, 5. On apprend ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu, c'est le mot ici, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, ce qu'on apprend ici, mes amis, c'est que l'amour agapé, nous apprend la Bible, est un don de Dieu qui est donné qu'aux chrétiens par le Saint-Esprit au moment de leur conversion à Jésus-Christ. Donc, quand on se convertit à Christ et quand Christ nous pardonne, il nous donne des tas de cadeaux. Et un des cadeaux, c'est l'amour agapé. Il dit, je t'ai aimé, John, en te sacrifiant mon fils, je te donne le cadeau de la capacité d'aimer quelqu'un d'autre avec le même type d'amour. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. C'est un cadeau donné de Dieu. Et ça, on le sait. Pourquoi? Parce que, dans Galates 5, 22, vous vous rappelez les fruits de l'esprit, il est dit ceci, mais le fruit de l'esprit, donc l'esprit me régénère, l'esprit me donne du fruit. Le fruit que je manifeste, c'est le fruit de l'esprit, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est, le premier fruit, c'est quoi? L'amour. L'amour, le premier fruit, enfin c'est un fruit disons, mais la première section de ce fruit que Dieu me donne, c'est l'amour, la capacité d'aimer quelqu'un avec l'amour agapé. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la joie, la douceur et la maîtrise de soi. Tout ça, c'est des cadeaux qui nous sont donnés par Dieu et on le manifeste comme le fruit de l'esprit. Mais c'est quand même génial. Vous dites, John, pourquoi est-ce que je dois devenir chrétien? Ben voilà, ça, c'est des bonnes raisons. Tu dis, ah, moi, le christianisme, c'est pas mon truc. D'accord? Ben, moi, je vous dis, écoute, si tu viens à Christ, tu vas recevoir le Saint-Esprit et tu vas recevoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et ça, c'est qu'un verset. Et la Bible, elle est épaisse. C'est que cadeau sur cadeau sur cadeau que Dieu nous donne. Et c'est pour ça que je reviens au mariage. Voici donc ce qui devrait faire la différence entre un mariage chrétien et un mariage non chrétien. La relation du couple chrétien est imbibée de l'amour agapé. Les deux couples qui connaissent Christ, les deux, peuvent aimer l'autre de cet amour de sacrifice. L'amour agapé, qui leur est donné comme, par Dieu comme un don. Cela veut dire que le mari ou la femme chrétienne peut aimer son conjoint, même s'il n'a pas envie quelque part de l'aimer. parce que Dieu lui donne dans le cœur l'envie spirituelle de l'aimer, parce que c'est son conjoint, même s'il ne le mérite pas, même si son conjoint ne l'aime pas comme il aimerait en retour, c'est pas grave, tu aimes quand même. Il aime parce qu'il décide d'aimer comme Dieu a fait pour nous. En Corinthiens 13, vous connaissez ce texte qu'on a lu d'ailleurs, enfin qui a été lu hier dans le mariage. L'amour est patient. L'amour agapé ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Mais l'amour, c'est incroyable ce que Dieu nous donne. Et c'est important dans un mariage. Il faut avoir l'amour qui nous aide à être patient. Il faut être patient. Il ne faut pas toujours chercher son propre intérêt. Il faut chercher l'intérêt de l'autre, en Corinthiens 13. Il ne faut pas s'irriter. Ça arrive, malheureusement, mais on demande vite pardon. Et on ne soupçonne point le mal dans un mariage. Et on excuse tout. À un moment donné, il faut pardonner. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Alors le résultat certain, j'ai déjà dit, imaginez que votre conjoint commence demain à vous aimer d'un amour agapé sans relâche. Qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Imaginez que votre conjoint vous aime agapé, 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 toute la journée, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Vous allez vous dire, mais c'est génial le mariage, d'être aimé comme ça par quelqu'un. Et donc vous allez en retour vouloir agapé, bon j'invente le mot d'accord, d'agapé votre conjoint et vous allez devenir meilleur ami. Alors, je sais que, malheureusement, ça, je viens de décrire l'idéal biblique. Ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Et malheureusement, des chrétiens peuvent s'éloigner du Seigneur. Ça, on l'a vu avec David, le roi David. Il s'est éloigné du Seigneur, il a commis l'adultère, et c'était le début d'une galère pour le reste de sa vie, pour cet homme. Et les gens innocents autour de lui ont aussi galéré à cause de son adultère. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, mes amis. Et la clé, c'est qu'il faut marcher avec le Seigneur. Jeune couple, écoutez-moi bien. La clé de votre mariage, en fait, c'est de marcher étroitement avec Jésus-Christ jusqu'au jour de votre mort. Et le jour où vous éloignez du Seigneur, c'est le jour où les dangers peuvent commencer. Maintenant, je ferme la parenthèse. Ça, c'était l'introduction, d'accord? Mais j'espère que vous comprenez mieux ce qu'est l'amour agapé. Revenons à Romains 13. Maintenant, regardez. Romains 13 nous décrit 8 facettes importantes de l'amour agapé. Vous dites, ouais, mais John, tu as parlé du mariage. C'est vrai que j'ai utilisé le mariage comme illustration, mais l'amour agapé ne s'utilise pas que dans un mariage. L'amour agapé s'utilise dans notre vie quotidienne avec les gens avec qui on côtoie, d'accord? Et donc, c'est ça où je pense ces versets deviennent très intéressants pour nous tous. Peut-être vous n'êtes pas marié, peut-être vous aimeriez être marié, peut-être vous étiez marié. Ok, c'est pas grave. La question, c'est comment est-ce que cet amour se manifeste dans nos vies quotidiennes? Alors voyons ces 8 facettes vues dans Romains 13, 8 à 14. D'accord ? Numéro 1. La dette de l'amour. L'amour étant une dette. Regardez, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alors de quoi Paul parle ici? Comment comprendre cette dette de l'amour? Alors est-ce que c'est une dette financière? Il y a certains chrétiens qui se sont dit, ah ben voilà, le contexte, vous vous rappelez, c'était de payer ses impôts, verset 7, rendez à tout ce qui leur est dû, impôt à qui vous devez impôt, tribut à qui vous devez tribut, etc. Donc le contexte c'est l'argent, certains disent, ben voilà, donc il ne faut jamais s'endetter. Voilà ce que certains préconisent. Le problème avec cette interprétation, c'est que dans Exode 22 et le verset 25, on apprend ceci. Il dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras pas de lui point d'intérêt. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que ce verset parle du prêt. Et spécifiquement ici, du prêt à quelqu'un de pauvre. Donc la question dans Exode n'est pas une question si le prêt est une bonne chose ou pas, apparemment c'est une bonne chose. La question ici c'est vis-à-vis de l'ordre des intérêts justes ou injustes. Dans Lévitique 25, versets 35 et 36, nous lisons ceci. 25, 35 et 36, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. De nouveau, ce texte n'interdit pas le prêt, mais interdit l'usure envers quelqu'un de pauvre. Et l'usure, c'est un intérêt trop élevé auprès de l'indigent. Même dans Matthieu 5, 42, Jésus, petite note quand même intéressante, Matthieu 5, 42, Jésus dit « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Donc l'emprunt en lui-même n'est pas un mal. Et dans la parabole de Matthieu 25, 14 à 30, la parabole des talents, Jésus utilise l'intérêt d'une banque comme illustration bonne de ce qu'il faut faire avec les talents. Donc c'est difficile de conclure que Jésus est contre le prêt et même l'intérêt. Alors revenons à Romains 13, 8. Comment comprendre alors la prochaine phrase ou cette phrase ? Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Eh bien le contexte est clairement l'amour ici. L'amour, il dit que le chrétien devrait bien sûr toujours payer ses dettes financières, ça c'est logique, sauf une. Il y a une dette que le chrétien n'est pas obligé de payer parce qu'il n'arrive pas à la payer. C'est une dette qui s'appelle l'amour. L'obligation d'aimer, puisqu'on reçoit l'amour agapé dans le cœur et on va aimer les gens, cette obligation d'aimer n'a aucune limite. En fait, le chrétien ne peut jamais aimer autant qu'il devrait. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut aimer beaucoup, mais puisqu'on est encore dans notre chair, dans un monde déchu, c'est impossible d'aimer comme Dieu a aimé. Bien qu'on peut essayer. Alors écoutez bien, 1 Jean 4,19. Déjà, pourquoi est-ce qu'on devrait aimer comme ça ? 1 Jean 4,19, ainsi. Ah non, c'est pas. Je suis dans un pierre, c'est peut-être pour ça que ça ne marchait pas. 1 Jean 4,19 nous dit ceci. Pourquoi, pour nous, nous l'aimons, donc nous aimons Dieu, écoutez, parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Ça, c'est la raison pour laquelle nous aimons de cette manière agapée. Alors, qui devrions-nous aimer ? Qui devrions-nous aimer ? Alors, je vous donne quelques exemples de qui nous devrions aimer. D'accord ? Par exemple, dans Jean 13, 34, il est dit ceci. Je vous donne un commandement. Jésus parle. Nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on devrait aimer ? Déjà, les chrétiens. On devrait apprendre à nous aimer les uns les autres avec un amour agapé. D'accord ? Jean 15 et le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il parle à ses disciples. Hébreux 6, 10, c'est un verset assez intéressant. Hébreux 6, 10 nous dit ceci, c'est un verset que j'utilise souvent, vous savez, parce que nous, on est soutenus financièrement par les États-Unis. Alors, quand les gens nous envoient un don, souvent, je mets ce verset après le don qui dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » D'accord ? Donc cet amour se manifeste par des services qu'on peut se rendre mutuellement acquis aux saints. Donc ici, c'est les chrétiens. De nouveau, nous sommes appelés à aimer les chrétiens. Encore Colossiens 3, 12 dit ceci, ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voyez-vous, il se dirige de nouveau aux chrétiens. Moi, je peux agir et aimer comme cela. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a aimé comme ça. Donc, si vous arrivez de la peine à aimer quelqu'un, dites-vous, mais comment est-ce que Dieu m'a aimé ? Oh ! Il m'a tout pardonné. Regarde tout ce qu'il m'a donné. Ben, je devrais faire pareil envers mon frère ou ma sœur chrétienne. C'est beau, hein ? Tellement beau. Mais ce n'est pas qu'aux chrétiens qu'il faut manifester cet amour. Regardez Matthieu 5, 44 et 45. Et là, on apprend qu'on est aussi appelé à aimer les non-chrétiens de la même manière. Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Est-ce que vous avez des ennemis ? Alors, malheureusement, on peut avoir des ennemis chrétiens, mais on peut avoir des ennemis non-chrétiens. Hein, des gens qui, vraiment, ils ne vous aiment pas. Comment je réagis à ces gens comme ça ? Ça, c'est les versets durs, d'accord ? Regardez. « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Vous dites, « Mais c'est pas possible d'aimer mon ennemi. » Ah, si tu es imbibé de l'amour agapé, tu peux. Parce que nous étions ennemis de Dieu avant que lui décide de nous aimer. Mais il a quand même aimé. Ah, donc je peux aimer un ennemi ? Absolument. C'est même un ordre. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est intéressant que de manifester l'amour agapé envers un non-chrétien prouve quelque part que je suis vraiment justifié par la foi. Petit verset, Galates 6, 10. Écoutez, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tout le monde et surtout envers les frères en la foi. » Donc, si on devrait mettre une priorité, on pourrait dire, ce verset nous dit clairement, si je dois aider quelqu'un, je veux premièrement aider un chrétien, mais ensuite, je ne dois pas oublier les non-chrétiens. Si je peux manifester de l'aide à un non-chrétien, c'est ce que ce verset m'appelle à faire. Ça, c'est la dette de l'amour, mes amis. Ça, c'est le verset 8. La dette de l'amour. Une dette qu'on ne peut jamais repayer pleinement, mais qu'on doit manifester. Deux, le résultat de l'amour. Regardez verset 8. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Alors c'est intéressant, ce verset dit que quand j'aime quelqu'un comme ça, avec l'amour agapé, j'accomplis la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais dans le sens que nous l'obéissons, nous satisfaisons ce que la loi demande de nous au niveau de l'amour. Nous faisons naturellement ce que la loi définit que nous devrions faire. Jésus dit dans Matthieu 5, 17, ceci par rapport à la loi et de son accomplissement de la loi. Il dit au verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Waouh. Donc, j'accomplis la loi lorsque j'aime comme la loi m'indique de le faire. Donc ça, c'est le résultat de l'amour. Quand j'aime, j'accomplis la loi. Trois, les détails de l'amour. Vous dites, ouais, mais John, soyons pratiques. Comment on fait exactement là ? Super pratique. Regardez. Verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après avoir dit au verset 8 que l'amour accomplit la loi, Paul va le démontrer de manière pratique. Au verset 9, il cite 4 des 10 commandements. Celui sur l'adultère, 7e commandement, le meurtre, 6e commandement, le vol, 8e commandement et la convoitise, 10e commandement. Alors comment est-ce que ces commandements, il en cite 4, comment est-ce que ces commandements reflètent l'amour ? Je vous montre. Prenons l'adultère, premier commandement qu'il cite, d'accord ? Ne commets pas d'adultère, ça c'est le commandement. Donc, L'amour ici, c'est ceci, c'est de démontrer l'amour envers mon prochain, ainsi qu'envers la femme ou le mari de mon prochain. Mais comment? Comment est-ce que je leur montre l'amour? Eh bien, en protégeant sa pureté. En protégeant sa pureté. Justement, en ne pas commettant l'adultère. L'adultère n'est pas l'amour, mais le désir sexuel. Interdit, je pourrais le dire. Le conjoint de mon prochain lui appartient. Et donc, je ne vais pas le lui voler. Ainsi, ce commandement me rappelle que Dieu honore le mariage et que honorer mon conjoint est de ne pas lui faire du mal en regardant autre part pour ma satisfaction sexuelle. Donc j'honore mon conjoint, j'honore mon prochain, je peux le dire ainsi, et aussi mon prochain, j'honore son conjoint et les familles respectives de celles-ci en respectant le mariage. Et dans ce sens-là, je manifeste l'amour agapé. Le meurtre. Bon, là, c'est plutôt logique. Comment est-ce que de ne pas commettre un meurtre manifeste de l'amour? Ah, si vous ne comprenez pas ce point-là, je ne sais pas. C'est assez logique, je dirais. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas le tuer. Logique. Je ne vais pas me venger. Je ne vais pas lui faire du mal. Je ne vais pas lui voler ce qui est le plus précieux pour lui, sa propre vie. Je vais respecter sa vie, je vais l'honorer. Moi, je dirais que c'est encore plus loin, parce que Calvin disait qu'il faut prendre les commandements et regarder le revers du commandement. Alors, si je ne dois pas le tuer, je dois l'aimer. En fait, je dois tout faire pour que sa vie soit positive, quelque part. Je dois honorer sa vie. Je dois tout faire pour lui rendre sa vie paisible. Je donne un exemple. Vous êtes dans un appartement. Vous avez des gens en haut, à droite, à gauche, en bas, tout autour. Vous avez une super stéréo. Et les basses, vous avez... Vous savez que ça résonne dans tout le bâtiment. C'est ma stéréo, je fais ce que je veux. Les autres, ben non. Ça, c'est peut-être pas l'amour agapé. Vous n'allez pas les tuer, peut-être, mais vous allez peut-être tuer leur tympan. D'accord? Voilà, on honore son prochain. On baisse le volume. Je vais me soucier du bien-être de mon voisin. Je vais conduire peut-être ma voiture de manière raisonnable afin de ne pas mettre autrui en danger. Je vais consommer de l'alcool raisonnablement afin de ne jamais perdre contrôle de mes facultés et mettre une autre vie en danger. Je donne un exemple très concret à l'église, d'accord? Si j'ai des enfants, je vais essayer de leur apprendre à ne pas courir après le culte afin de ne pas peut-être renverser une personne âgée de leur faire du mal. On essaye d'aimer autrui, de lui faire du bien. Le vol, prochain commandement, le vol. Tu ne déraberas point. De nouveau, si j'aime mon prochain, ben je ne vais pas lui voler ce que lui appartient. Il a travaillé, il a le droit à avoir son salaire, car l'ouvrier mérite son salaire, et il a le droit de posséder ce qu'il a. Ce n'est pas à moi de lui voler. Je respecte ainsi mon prochain. Alors c'est très concret. Au travail, honnêtement. Vis-à-vis de votre employeur, est-ce que vous volez du temps en ne pas travaillant comme vous devriez travailler, en prenant des pauses que vous ne devriez peut-être pas prendre? Et les fournitures, tellement facile d'emprunter des fournitures, n'est-ce pas? Ou avec l'État, on l'a vu la dernière fois, vis-à-vis des impôts, est-ce qu'on vole de l'État en ne pas payant ce qu'on doit? Ben, on doit travailler. Et vrai, le vol, de ne pas voler, veut dire ça nous pousse au travail. Si je suis appelé à ne pas voler, je suis appelé à travailler et à gagner ma propre vie. Et la Bible est très claire sur ce point-là. On avait déjà vu ça quand on a fait la série sur les 10 commandements. Dans 2 Thessaloniciens 3:10, verset absolument génial, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, ne veut pas travailler, attention, hein, s'il est paresseux, si quelqu'un ne veut pas travailler, virgule, qu'il ne mange pas non plus. » La pire chose qu'on peut faire, c'est d'aider un paresseux. Pire chose qu'on peut faire. Non, la Bible nous appelle à travailler, gagner notre vie et gagner notre pain. Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Ça, c'est différent que quelqu'un qui ne veut pas travailler. Donc, il faut bien évaluer l'aide qu'on donne à ces personnes. Il y a encore la convoitise. Ici, tu ne convoiteras point. De nouveau, hein, ce sont des manière, le détail de l'amour. Comment est-ce qu'on aime agapé? Eh bien, en ne pas convoitant ce qui est à mon voisin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant ce commandement. Il a le droit à posséder des choses. Exode 20 nous donne le détail du commandement, je vais le lire parce que j'ai toujours trouvé ce commandement très très intéressant. Exode 20, 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni le serviteur, ni la servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, je ne dois pas convoiter, donc désire vraiment ardemment ces choses, la maison, la voiture, ou le vêtement de mon prochain, ou la femme de mon prochain, ou peut-être votre prochain, il a un âne ou une vache, vous dites, ah, j'aimerais tellement avoir cet âne, quoi. D'accord? Il ne faut surtout pas convoiter l'âne de votre prochain, d'accord? Non, il ne faut pas faire ça. Parce que ça, ça communique à votre voisin, ça va changer la relation. Hein. S'il a quelque chose et vous voulez vraiment cette chose, quelque chose va se passer dans votre relation, quoi. Vous n'allez plus être normal. Vous allez être en colère contre ce prochain parce qu'il a ce que vous voulez. C'est peut-être son nouveau téléphone iPhone 5. Vous dites, waouh, ce truc, c'est vraiment ce que je veux. Et là, maintenant, la relation est tendue. Non. Contente-toi ton iPhone 4. D'accord. C'est tout bête, mais c'est pas bête, en fait. C'est biblique. En Corinthiens 13, 4, l'amour n'est point envieux. N'est point envieux. Alors, il ajoute à la fin de ce verset, et ce qu'il peut encore y avoir. Donc, il ne cite que 4 commandements symboliques, mais tous les commandements sont applicables ici. D'accord? Alors, il résume les commandements, ben, vous le connaissez déjà, tous ces commandements, c'est résumé par « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est vrai. Écoutez, franchement, pensez à ça. Vous dites « waouh, je suis imbibé de l'amour agapé ». Maintenant, j'ai la capacité d'aimer mon prochain d'amour agapé. Si vraiment vous dites « voilà, moi, je vais maintenant regarder mon voisin, mon prochain, mes amis, tout ça », avec les lunettes agapées, je vais tout faire pour aimer et aimer mon prochain. Vous avez presque, à la limite, même pas besoin de connaître les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est un guide. Mais finalement, c'est logique. Tu te dis toujours, comment est-ce que je peux aimer, aider et honorer mon prochain? N'importe qui. C'est pas compliqué, hein? Pas compliqué. Alors maintenant, appliquez ça au niveau d'un mariage. C'est pas compliqué. Vous dites, mais qui est mon prochain? Ben, la parabole du bon samaritain nous donne la réponse dans Luc 10, 25 à 37. C'est toute personne que je rencontre dans ma vie qui a besoin de mon aide, d'une aide légitime. Il y a des profiteurs, il faut faire attention avec les profiteurs, mais quelqu'un qui a une aide légitime, à qui je peux pouvoir une aide légitime, j'aide, j'essaie d'aider comme je peux. C'est ça l'amour agapé. Ce n'est pas un profiteur. C'est pour ça que nous avons, au niveau de l'Église, j'ai déjà souvent dit, une aide. Quand des gens ont vraiment des besoins, on a des gens qui interviewent cette personne pour vraiment comprendre leur situation. Et s'ils sont vraiment dans le besoin, là, on aide. Mais il y a aussi des profiteurs. Donc, on fait très attention par rapport à ça. Alors, l'amour agapé, c'est quoi? C'est la réponse inévitable d'un cœur qui a réellement été touché par Dieu. Et cet amour se manifeste par des actions concrètes d'amour envers mon prochain. 4. L'attitude de l'amour. Ce verset, écoutez, j'ai presque rien à dire dessus, il est tellement clair. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Mais je trouve cette phrase absolument géniale. L'amour ne fait point de mal au prochain. Point. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? C'est tellement clair. Je répète, au cas où vous n'avez pas saisi, d'accord? L'amour agapé ne fait point de mal au prochain. Alors, si on fait point de mal au prochain, on fait quoi? Du bien au prochain. Pensez aux personnes que vous aimez. Parce que parfois, vous leur faites du mal. C'est dommage. C'est dommage. Si c'est le cas, demandez leur pardon et dites, tu sais, aujourd'hui j'ai appris que verset 10 dit que je ne devrais pas te faire du mal. Je te demande pardon et je vais aujourd'hui essayer de vraiment te faire du bien. Vous faites ça là, c'est ta révolution. Ils vont être contents d'entendre ça. Et on doit se rappeler ça régulièrement parce que, vous savez, notre chair, elle est là. Notre nature pécheresse qui nous colle à la peau, quoi. Et on est égoïste à la base. C'est ça le problème. Super égoïste. Si vous n'êtes pas convaincu, demandez à mon épouse. Parce que c'est moi l'égoïste dans la famille. Vraiment compliqué. Toujours en train de demander pardon. 5. L'urgence de l'amour. L'urgence de l'amour. Il n'y a que 8 points, d'accord? On y est presque. C'est le verset 11 ici. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors Paul veut nous motiver ici. Pourquoi est-ce que je devrais aimer comme ça? Mais une des raisons, c'est parce que Jésus va revenir bientôt. Jésus va revenir. Alors il dit que Christ, le retour de Christ approche vite. Vous dites, ouais, mais John, ça fait quand même 2000 ans qu'on attend. Ouais, mais t'as voir, 2000 ans, dans l'agenda de Dieu, c'est 2 jours. C'est rien. D'accord? Il dit, l'amour est important d'autant plus que la fin approche. Et il dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ben, en fait, c'est vrai. C'est vrai. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis converti en 1976. Aujourd'hui, on est en 2012. Donc, je suis 36 ans plus proche de Jésus aujourd'hui que je l'étais au jour de ma conversion. Dans ce sens-là qu'il est en train de dire ceci. Bien sûr, quand je suis sauvé au moment de mon salut où je place ma foi en Christ. Il me sauve. Mais je suis encore dans le corps, je n'ai pas encore vu Jésus face à face. Le jour où je meurs, la Bible dit, à cet instant même, je vais être face à face à Jésus. Alors, mon salut, il est complet, mais il n'est pas complet dans le sens que je ne suis pas encore avec lui. Mais je suis 36 ans plus proche de cet instant que je l'étais au jour de ma conversion. Alors moi, je me réjouis. Plus on est âgé, il y a une part de nous qui se réjouit de plus en plus. Alors bien sûr, on est un peu triste parce qu'on réalise que on n'est plus aussi jeune qu'on l'était, ça je le sens déjà, mais on se dit, waouh, bientôt je vais être avec lui. Ça c'est trop génial. Alors il nous dit, réveillons-nous de notre sommeil. C'est comme si le monde continue son train, comme si sa destinée était éternelle. Mais non, la Bible dit clairement que le jour viendra où le monde va être détruit. 2 Pierre 3:10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mes amis, nous ne savons pas quand, Jésus a dit personne ne sait quand, mais le jour viendra où Jésus va revenir et cette planète, cette belle ville de Genève, la Suisse, les Alpes, tout va brûler. Même le lac Léman. Tout. Et dans ce sens-là, il dit, mais attendez voir, soyons urgents. Soyons urgents. Dans notre amour envers autrui. Je ne sais pas si vous savez, mais le calendrier mayan nous dit que la fin du monde, c'est pour le 21 décembre de cette année. Vous saviez ça? On a encore environ 3 mois selon le calendrier mayan, c'est ce qu'ils disent. Hein. En fait, la Bible dit absolument le contraire. Parce que Jésus dit clairement la date de son retour. Vous saviez ça? Alors je vous montre. Jésus dit, Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure. Attention, hein. Sortez vos stylos et vos calendriers. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ensuite, il dit au verset 44, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Un jour comme aujourd'hui. Franchement, est-ce que vous êtes levé ce matin pour vous dire, je parie que Jésus revient aujourd'hui? Je parie que non. Moi, je n'y ai pas pensé à ça. Ben, c'est le jour idéal pour son retour. Quand on n'y pense pas. C'est quand même marrant d'y penser à ça. Écoutez, on organise une conférence sur le calendrier mayan et la fin du monde, d'accord? Juste pour le noter, Ce sera le 1er novembre et le 2 novembre. Florent Varac viendra pour la première session. Tom Blanchard sur la numérologie biblique, deuxième session. Et on terminera probablement avec un culte ici sur la fin des temps. Ça va être super, donc notez-le déjà. Le calendrier Mayan et la fin du monde, ce sera le 1er et le 2 novembre. D'accord ? 6. Les disciplines de l'amour. Regardez, maintenant on conclut. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Là, il donne l'illustration d'un soldat qui s'est engagé dans une nuit d'orgie et de beuverie. Et encore enveloppé dans ses vêtements de son péché, a sombré dans un sommeil d'ivrogne. Mais l'aube approche, le combat va bientôt commencer. L'heure est venue de se réveiller, de se dépouiller de ses vêtements de la nuit et de se revêtir de l'armure du combat. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Réveillons-nous, les amis. Ne soyons pas là. Le temps est proche. Profitons du temps que nous avons, et surtout, je dirais, dans un pays comme le nôtre, de liberté, pour aimer et aimer encore. Et que les gens voient en nous Jésus-Christ pour qu'ils puissent comprendre l'évangile et être sauvés en retour. Aidons-nous les uns les autres avec amour agapé. Et les gens, en nous voyant nous aimer ainsi, vont se dire « Waouh ! Les chrétiens, c'est vraiment quelque chose de magnifique. » On se dépouille de nos œuvres des ténèbres, on se refait de l'armure de Dieu, les armes de lumière, et on marche honnêtement. C'est ça les disciplines de l'amour et de la vie chrétienne. Le mot orgie, c'était vraiment ici lié aux célébrations militaires qui devenaient des orgies. L'ivrognerie, c'était l'ivresse ou des beuveries, les gens qui buvaient trop. La luxure, peut-être le mot français mal choisi, le mot veut littéralement dire lit ou chambre à coucher, donc on a vraiment plus l'impression ici qu'il s'agit de péché sexuel. Débauche, quelque chose de honteux ou d'obscène, souvent sexuel. Querelle, dispute. Jalousie, un zèle amer qui mène à des divisions. Vous savez, c'est difficile d'aimer quelqu'un lorsqu'on pratique ces choses. Donc il dit, mets de côté ces choses et pratique l'amour. Sacrifie pour aimer et aime encore. Et quand tu penses que tu as aimé au maximum, aime encore plus. Vous dites, ouais, mais John, c'est incroyable. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment aimer comme ça? Ah, point 7, la source de l'amour. Regardez verset 14. Verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » C'est ça la clé, mes amis. La clé, c'est Christ. La clé, c'est de connaître Jésus-Christ, être sûr que Jésus-Christ est mon Seigneur, parce qu'avec Jésus-Christ, il me donne le Saint-Esprit et il me donne le don de l'amour agapé. Donc, si tu n'es pas sûr de connaître Christ aujourd'hui, reçois Christ comme Sauveur et Seigneur. Et il nous rappelle qu'il y a une lutte jusqu'à son retour, la lutte de l'amour au verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Je laisse le péché pour aimer. Je termine avec ceci. Allez avec moi dans le livre de Osée. Osée. C'est un petit prophète. Un livre assez remarquable. Ce prophète était marié avec une femme prostituée. Difficile à imaginer. Et Osée décide de tout faire humainement pour reconquérir sa femme. Déjà, il faut dire, mais alors là, c'est fou. C'est plus que fou. C'est presque impossible. Chapitre 2, verset 4. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Voilà Osée qui parle de sa femme. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié en ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution, enfants illégitimes. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants, et me donne mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin. Maintenant, Osée dit, je vais la reconquérir. Je vais fermer son chemin, je vais l'arrêter dans la route, parce qu'elle va aller vers ses amants. Je l'arrête avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers et poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Donc il se dit, super, je vais tout bloquer la route pour qu'elle ne puisse pas aller voir ses amants. Puis elle dira, c'est ce qu'il espère, puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Il se dit, ah là là, je vais tout faire pour la reconquérir. Et il se dit, elle sera encore plus heureuse après. Verset 16, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Il dit, voilà, allez, on va faire un petit dîner à deux, je l'amène dans le désert et là, je vais te parler à son cœur. Il dit, écoute, reviens, chérie, je t'aime. Là, je lui donnerai ses vignes à la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle monta au pays d'Égypte. Alors, il fait une parabole avec Israël, on est d'accord, mais ici, il fait tout pour reconquérir sa femme. Les chapitres 3, verset 1, l'Éternel me dit, va encore, aime une femme aimée d'un amant et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Et je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homer et un demi d'orge. Elle se retrouve sur un bloc d'esclavage. Osée rachète sa femme, tellement il l'aime. Vous dites, mais John, c'est incroyable, c'est plus qu'incroyable, c'est miraculeux ici. Quel homme pourrait tenter de reconquérir sa femme comme ça, qu'un homme qui connaît Dieu, qu'un homme qui a un amour agapé, qui va tout faire pour la ramener. Ça, mes amis, c'est l'amour agapé. Ça marche chaque fois? Non, bien sûr que non. On ne peut pas dire que ça marche chaque fois. Dieu a sacrifié son fils. La plupart du monde le rejette. Mais voilà l'amour que nous devrions manifester. C'est un beau défi, non? Un super beau défi. Que notre amour soit révolutionnaire dans toutes nos relations. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Seigneur, vraiment, nous sommes touchés par ta parole ce matin au plus profond de notre être, Seigneur, et nous te demandons pardon. Seigneur, si aujourd'hui mon amour devait être mesuré d'une manière ou une autre, Seigneur, j'ai presque honte de savoir à quel niveau il serait. Mais Seigneur, ta grâce est énorme, elle est abondante, elle est éternelle, Seigneur. Et tu veux que notre progrès simplement soit évident. Pourquoi ? Parce que Christ nous a sauvés. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Nous t'aimons et nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Amen.